La Première Podcast.
Un jour dans l'histoire. Laurent de Hausset.
Nous sommes dans les premières années du XXe siècle en Afrique, alors que l'expansion belge n'en est qu'à ses débuts. L'une des premières préoccupations de l'administration coloniale est de faire construire des centres de détention. Ils sont destinés aux Congolais, les indigènes comme on les nomme, mais aussi aux étrangers, aux blancs, à tous ceux qui ont enfreint la loi et les règlements ou qui se sont opposés à l'autorité coloniale. L'une des plus importantes prisons bâties à cette époque se situe à Stanleyville, aujourd'hui Kisangani. On l'appelle 100 000 briques du nom des briques cuites ou sèches utilisées pour son édification. C'est une institution qui aura pour principal objectif d'assurer la suprématie du colonisateur et d'exploiter les hommes et leur territoire.
Cette colonie belge pouvait être considérée comme la plus belle réussite d'Afrique. Et cela, même ses ennemis, les envieux qui comprenaient mal qu'un petit pays puisse être peuplé de grands hommes, le reconnaissaient.
Un jour dans l'histoire, sur La Première.
Pour évoquer cette prison des 100 000 briques, Bérangère Piret est avec nous. Bonjour Bérangère Piret.
Bonjour.
Doctorante en histoire à l'université de Saint-Louis à Bruxelles. Vous êtes l'auteur de Les 100 000 briques, la prison et les détenus de Stanleyville. C'est publié au Centre d'histoire judiciaire. Alors avant de nous rendre à la prison de Stanleyville, on va remonter un petit peu plus loin dans l'histoire. On va s'intéresser à la sémantique de cette notion de l'enfermement. Au Moyen-Âge, au fond, l'enfermement, c'est juste une disposition pratique?
Oui, effectivement, c'est l'enfermement sert pour
éloigner au fond les délinquants, les bandits, etc.
Sert, oui, c'est ça, et aussi à les garder sous la main le temps du jugement.
Et puis ça va évoluer, bien sûr, tout au long des siècles. Quand est-ce que la prison devient aussi un outil de quand est-ce que c'est une peine au fond?
Alors la prison devient une véritable peine après la Révolution française. La prison devient une peine, et puis les objectifs de cette peine vont évoluer au fil des siècles.
Alors au début du XXe siècle, les Européens, qui sont de plus en plus nombreux, on le disait, en Afrique, vont mieux maîtriser les territoires, les administrer. On va abandonner la logique purement guerrière. On administre, on institutionnalise, on organise la justice, on bâtit des centres de détention. Et ces prisons africaines présentent deux caractéristiques communes. Dites-vous dans votre ouvrage, quelles sont ces caractéristiques communes? Il y a le côté collectif de l'enfermement.
Voilà, et ça c'est une grande différence par rapport à la prison européenne où le régime cellulaire prime. En Afrique, on considère que les Africains sont des êtres grégaires, qu'ils doivent rester ensemble. Et donc, dans les prisons congolaises, on aura des dortoirs, ce qui est tout à fait étranger au modèle belge.
Et puis, il y a la ségrégation raciale aussi.
Ah oui. Donc, la prison est un véritable observatoire des politiques coloniales, et notamment en matière raciale. Et les détenus européens et africains seront soumis à des régimes complètement séparés, complètement différents. Les prisonniers européens ne porteront pas l'uniforme, ne devront pas faire tous les travaux obligatoires. Ils auront un régime alimentaire spécifique, ils pourront sortir de la prison. Bref, c'est vraiment un régime tout à fait différent.
On reviendra à ces différences de traitement. Les représentants de Léopold II vont donc mettre en place des cadres pour exploiter le jardin royal, comme on l'appelle, que représente l'État indépendant du Congo. Et en matière carcérale, c'est vers la métropole que les autorités vont se tourner, parce qu'en fait, et il faut le souligner, la Belgique, à l'époque, véhicule une réputation internationale en termes de ce que l'on appelle la pénologie. Alors, quels sont quelques grands hommes, quels sont ceux qui s'intéressent à cette pénologie?
Alors, il y a bien sûr Prince, qui est un des grands représentants de la pénologie belge, mais il ne faut pas oublier que cette pénologie, elle ne peut pas s'appliquer telle qu'elle en Afrique. On ne peut pas exporter un modèle qui marche, et c'est pour ça que, en Afrique, on ne trouve pas directement un transfert des prisons. On va petit à petit insérer ce modèle de détention, mais il ne faut pas s'imaginer que dès l'arrivée de Léopold II, on aura des prisons. Donc, au début, quelqu'un qui est condamné à une peine de privation de liberté, en fait, il va suivre son juge dans ses déplacements. Et puis, ce n'est que au tournant du siècle qu'on va construire des prisons. Et là, même chose, en fait, les prisons au Congo sont très variables, sont de taille très variable en fonction des localités où elles se trouvent. Donc, une prison, ça peut être un bâtiment dans un matériau non durable, comme ça peut être aussi la prison de Stanleyville avec ses 100 000 briques.
Avec quelques modèles de qu'on connaît aujourd'hui, comme la prison de Saint-Gilles, par exemple.
Voilà, oui. Alors, la prison de Stanleyville, elle est de style Tudor et elle est très proche de la prison de Saint-Gilles, avec ses très hauts murs qui sont terminés par des créneaux, avec les tours, une porte cochère. Mais donc, c'est une architecture particulière, une architecture qui a pour but d'impressionner et de déjà imposer un message à ceux qui passent devant.
Alors, parmi les défenseurs d'une pénologie peut-être plus moderne, entre guillemets, on peut citer aussi Édouard Ducpétiot, qui est un docteur en droit, président du Sénat, un réformateur. Donc. Et puis, celui qui va introduire le principe de liberté conditionnelle chez nous en 1888, c'est Jules Lejeune. Alors, il y a évidemment aussi des problèmes de budget. J'imagine qu'on doit faire face à ça aussi.
Voilà, un des grands principes de la colonie, c'est que les budgets de la Belgique et du Congo sont séparés. Donc, le Congo ne doit pas coûter à la métropole. Et toujours, dans tous les domaines de l'administration publique, on va retrouver cette question des budgets. Et il va toujours falloir user de trucs et astuces. Et notamment, quand la prison doit s'agrandir, on n'a pas les budgets pour la grandir. Donc, ce sont les détenus qui vont réaliser les briques eux-mêmes, qui vont construire les murs eux-mêmes, ce qui est assez paradoxal.
Alors, vous le disiez, on ne peut pas appliquer en Afrique tel quel le modèle belge. On ne peut pas non plus reprendre le modèle de punition, de coercition africain. Pourquoi ?
Alors, c'était un modèle qui était surtout basé sur la peine qui est inscrite dans le corps, une peine aussi d'éloignement. Et donc, on va bannir ou réduire en esclavage. Et donc, ce sont des éléments que le colonisateur considère comme barbares et contre lesquels il veut lutter. Et donc, il ne peut pas appliquer ce modèle. Et en même temps, on l'a dit, il ne peut pas reprendre tel quel le modèle européen. Ouais. Il va donc falloir inventer un modèle de prison qui soit proprement colonial.
Et on va voir avec vous, Bérangère Piret, quel modèle on va bien pouvoir inventer donc en ce début de XXe siècle à Stanleyville. Donc aujourd'hui, à Kisangani, les 100 000 briques, c'est la prison de Stanleyville.
En 1902, ces mots, le roi Léopold II les écrivait à son ministre, Woust.
S'il faut des tuteurs aux jeunes arbres, il faut aussi les leur enlever au moment de leur développement, précisément pour ne pas l'arrêter.
Jean-Pierre Cordier, c'est une émission qui s'intitule Congo en un jour un, donc archive de la SONUMA. Nous sommes avec Bérangère Piret. On s'intéresse à l'histoire de la prison de Stanleyville et à ses détenus, la prison des 100 000 briques. Alors en 1906, Bérangère Piret, le gouverneur général de l'État indépendant du Congo et du Congo belge entreprend de réformer le monde pénitentiaire. Il va promulguer l'arrêté du 6 août qui réorganise les services dans les maisons de détention. On va s'intéresser à plusieurs aspects de cette réorganisation. On va chercher le personnel pénitentiaire. Qui est le gardien ?
Alors, le gardien, comme vous l'avez dit, il y a toujours un manque de financement. Et donc, le gardien, c'est un administrateur, quelqu'un qui gère une entité territoriale et qui, en plus de toutes ses missions qui étaient la police, la justice, l'administration, les cultures, les travaux publics, eh bien, en plus de tous ces rôles-là, il va prendre en plus la casquette de directeur de prison.
Et il va déléguer, parce que ses multifonctions vont l'obliger à déléguer forcément à des soldats, c'est ça ?
Alors oui, il va déléguer, il prend quand même en charge plusieurs aspects et principalement l'administration de la prison, mais il délègue la surveillance des détenus aux soldats de la force publique.
Gardiens, surveillants qui sont eux-mêmes contrôlés.
Ces soldats, ils sont bien sûr contrôlés par des autorités coloniales une fois de plus.
Alors c'est assez compliqué dans les régimes, les catégories de détenus. Il y en a plusieurs. C'est un peu compliqué de s'y retrouver.
Oui, alors ça reflète bien cette multiplicité de catégories, reflète bien une peur du colonisateur, peur que les réels bandits ne corrompent des petits voleurs. Et donc on essaye vraiment de catégoriser, le colonisateur a toujours eu ça en tête, c'est de créer des classes et des catégories. On va créer plusieurs catégories de détenus et à chaque catégorie correspondra un régime et les catégories sont définies en fonction de l'importance de la gravité de la peine.
Alors il y a la question des travaux bien sûr auxquels sont astreints les prisonniers et c'est l'une des plus importantes dans l'organisation carcérale, c'est donner le travail est nécessaire. nécessaire parce qu'il rend la peine efficace. Ça, c'est selon la philosophie pénitentiaire du début du XXe siècle. Mais au fond, ce travail, c'est un prétexte.
Alors, ce travail, on le retrouve aussi dans les prisons européennes. Hein, ouais. Il faut bien le dire. C'est en commettant un crime, eh bien, on a comme une offense à la société. Par le travail, on va réparer cette offense. Et ce travail, il va prendre des formes extrêmement variables en fonction des catégories de prisonniers. Ces travaux étaient plus ou moins lourds, plus ou moins éprouvants, plus ou moins dégradants aussi. Ça va de préparer les repas dans la prison, nettoyer la prison, faire des travaux agricoles, jusqu'à préparer des matériaux de construction, transporter ces matériaux, prendre en charge l'entretien des différents postes de la localité. Et souvent, c'était en fait des infrastructures qui bénéficiaient aux Blancs, comme le golf, comme ouais. le tennis, comme la piscine. Mais ce sont eux aussi qui ont pris en charge tout ce qui était hygiène publique, qui ramassaient les ordures. Et en fait, on peut véritablement dire que les détenus étaient une véritable main d'œuvre au service de la société coloniale.
Une main d'œuvre gratuite, évidemment.
Gratuite, bien sûr.
Et on va en dénoncer les abus.
On va en dénoncer les abus parce que il y aura réellement il y aura des réels abus. Et avec cette multiplicité des rôles que j'ai mis en évidence, en fait, il se trouve que souvent un même personnage était juge, était gardien de prison, était responsable des travaux publics. Et donc, eh bien, on a observé que quand il fallait mettre en route un chantier ferroviaire, par exemple, eh bien, il y avait un nombre anormal d'individus qui étaient condamnés à une peine de détention.
Vous dites, c'est vraiment la loi de l'exploitation économique qui est mise en valeur ici.
Oui, oui. En tout cas, dans ces abus, oui, ça a conduit à ça jusqu'au milieu de l'entre-deux-guerres.
Alors, quand un prisonnier commet un acte d'indiscipline, transgresse le règlement, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, il est sanctionné. Alors, il y avait un panel de peines disciplinaires. On peut penser aux peines interdiction de sortie, interdiction de visite, interdiction de correspondance. Il y a bien sûr la peine de cachot aussi. Mais alors, propre à la colonie, on retrouve ces coups de chicotte. La chicotte qui est le fouet colonial. Ça pouvait aller, selon les époques, jusqu'à 20, voire même ouais. 50 coups de chicotte.
Donc, administré seulement sur ce qu'on appelle les indigènes, bien sûr.
Bien sûr, toujours. Et alors, ces coups de chicotte étaient administrés dans la cour de la prison. Donc, il y a vraiment une théâtralisation ouais. de la discipline.
On les fait se coucher par terre, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Se coucher par terre, enlever leur uniforme et on les fouettait dans le bas du dos.
Uniforme qui rassemble justement les prisonniers, où il y a aussi des différences entre les Blancs et les indigènes.
Alors, comme on a eu l'occasion de l'évoquer, les Blancs ne doivent pas porter l'uniforme et les Congolais, eux, portent un uniforme qui est fait d'une vareuse bleue et d'un dessus qui est bleu et jaune. Alors on retrouve ces rayures qui sont vraiment caractéristiques des vêtements des prisonniers. C'est pour les retrouver plus facilement. Ouais. Alors il y a des prisonniers particuliers qui sont les prisonniers politiques, eux qui porteront un insigne distinctif pour qu'on puisse les retrouver de loin.
On évoquera les prisonniers politiques tout à l'heure parce que ça fait étrangement écho à la situation, à l'actualité. D'ailleurs, nous sommes avec Bérangère Piret dans cette prison des 100 000 Brique à Stanleyville.
1885 marque la naissance du Congo. Soixante ans se sont passés depuis, et le domaine énorme et inconnu d'un grand roi incompris est devenu un pays moderne, où un torrent de civilisation se répand à flots gonflés jusque dans les plus petits villages.
Tous les jours, 13h30, 14h30, un jour dans l'histoire.
Alors, début 20e siècle, Bérangère Piret, les critiques vont fuser à l'encontre de l'entraînement, de l'enchaînement des détenus et du travail lourd qui leur est infligé. En 1931 arrive une réforme. Un homme est important pour cette réforme, c'est Maurice Lippens, qui est gouverneur général du Congo belge de 1921 à 1923. Quels sont les principaux apports de sa réforme ?
Eh bien, première dimension, c'est bien sûr de désenchaîner les détenus. Donc c'était une chaîne qu'il portait au cou et qui les séparait d'autres détenus avec un mètre de distance. Et puis il va surtout lutter contre le travail forcé. Travail forcé qui avait, comme on a déjà eu l'occasion de le dire, de nombreux défauts, mais qui en avait un supplémentaire, qui était le fait que les détenus vont se rendre dans les villes pour faire leur travail. Ils étaient armés de pioches, de pelles, et ce qui a vraiment effrayé les civils, la population coloniale, qui est de plus en plus nombreuse aussi.
Parce qu'il faut le préciser, cette prison, au départ, est en dehors du centre de Stanleyville. Et puis c'est Stanleyville qui au fond s'agglomère autour.
Oui, Stanleyville a connu vraiment une croissance importante après la Deuxième Guerre mondiale. Et la prison qui était à l'écart de la cité a vraiment été sainte d'habitation.
Alors peu à peu, on va s'intéresser à l'instruction des détenus. Est-ce qu'on peut dire que c'est, on va parvenir à un résultat de ce côté?
Alors, on met en place, c'est vrai, l'instruction, mais comme vous l'avez dit, il y a un manque de moyens. Donc, ce sont des détenus qui enseignent à d'autres détenus des matières qui relèvent de l'enseignement primaire, donc du français, du lingala, des mathématiques, la géographie, l'histoire du Congo et de Belgique, toujours. Est-ce qu'on parvient à de réels résultats? Eh bien, il faut bien remettre en perspective tout ce mythe colonial de l'enseignement pour tous. Si ces détenus doivent suivre des cours d'enseignement primaire, c'est que cet enseignement n'est pas acquis non plus.
Ouais. Ça représente, je crois, une heure sur la journée.
C'est une heure par jour, oui, qui n'est pas imposée. Donc, c'est vraiment laissé à leur libre volonté.
Le problème, c'est qu'il faut souligner également la surpopulation qui est incroyable, enfin, qui explose les chiffres.
Oui,
hein,
alors, si la prison est prévue pour 350 détenus, dans les années 50, on est à plus de 900 détenus. Donc, il y a un réel problème.
Alors, manque de surveillance, bien sûr, on l'a dit, manque de moyens, manque de surveillance dans les prisons surpeuplées. On va nommer des capitas.
Les capitas, en fait, sont nommés pour faire face au manque de surveillance. Ce sont des détenus à qui on octroie une fonction de chef d'équipe. Donc, il faut vraiment supplier les surveillants et vont devoir rapporter les évasions ou les indisciplines.
Ça veut dire que ce sont des indigènes, encore une fois, jugés dignes de confiance.
Voilà, et en fonction... Donc c'est une façon de les valoriser, et puis c'est une façon aussi de les amender. Donc dans la littérature coloniale, on leur donne confiance et on leur fait confiance et on leur donne confiance aussi petit à petit pour permettre une meilleure insertion dans la société.
Quelle est la place des femmes dans ces prisons?
Alors, les femmes ont toujours été présentes à la prison. Jusque dans les années 50, elles ont été mêlées aux hommes et puis elles ont bénéficié de locaux à part. Ces femmes, elles étaient dans une situation particulière parce qu'on ne pouvait pas les soumettre à des travaux lourds. Et donc, en fait, elles étaient vraiment destinées, en fait, à faire la cuisine dans la prison. Jusque dans les années 50, quand une assistante sociale a été nommée pour s'occuper spécifiquement d'elle. Alors, elle donne des cours de tricot, elle leur apprend les principes d'éducation à l'européenne. Nouveau, c'est la prison est l'occasion de véhiculer toute une série de valeurs européennes.
Ces cours, d'ailleurs, de tricot, etc., qui vont avoir beaucoup de succès.
Qui vont avoir beaucoup de succès. Alors, d'après les rapports de la prison, les femmes aiment tellement ces cours-là que même hors des cours, elles se débrouillent avec des rayons de vélo qu'elles ont récupérés et des fils de couverture où elles continuent à tricoter.
Elles ne viennent pas toujours seules, ces femmes en prison?
Alors, ces femmes ne viennent pas seules. Elles sont autorisées à venir en prison avec leurs enfants de bas âge, les enfants qu'elles allaitent. Et il y a plusieurs femmes qui accouchent même en prison. C'est pour ça qu'on aura jusqu'à 10, 15, 20 enfants, bébés en fait, en prison.
Alors, vous êtes intéressée aux raisons de l'enfermement de ces femmes. Ce sont souvent des raisons morales, au fond d'eux.
Alors, la plupart du temps, ces femmes sont enfermées pour des transgressions du mariage, parce qu'elles ne veulent plus vivre avec leur mari, parce qu'elles ont décidé de le quitter et que lui refuse cette séparation.
Mœurs, sexualité, etc. aussi, bien sûr. Quotidiennement, un médecin se rend à la prison. Il n'en reste pas moins que les problèmes sanitaires sont énormes, les problèmes d'hygiène.
Oui, sont énormes. C'est directement lié à la surpopulation de la prison, bien sûr.
La population blanche en prison va évoluer aussi peu à peu. On a le sentiment que l'idéal colonisateur est mis à mal avec ces blancs en prison.
Oui. Alors, ces blancs en prison, c'est quasiment une transgression de l'idéal colonial. Il faut rappeler que ces blancs, quand même, en prison, se représentent une dizaine d'individus. Des Belges, beaucoup. Des Grecs, qui étaient présents aussi à Stanleyville. Le directeur de la prison a toujours le souci de les protéger, quelque part, des autres détenus. Donc, ils ont un quartier bien à eux. Ils ont un horaire à eux aussi. Ils ne doivent jamais se mêler aux autres détenus. Ils ont leur repas particulier. Et surtout, ils ne sont pas obligés de travailler, de sortir de la prison pour travailler non plus, pour ne pas s'exposer au regard des Congolais et des autres Européens.
Ils se lèvent plus tard, ils se couchent plus tard également.
Voilà.
Il y en a qui ont des prisonniers boys, c'est ça?
Voilà, donc jusqu'au milieu des années 30, ils ont le droit de se choisir un ou plusieurs boys parmi les détenus. Boy qui doit surtout préparer leur... on ne dit pas une cellule, on dit leur chambre.
On va s'intéresser, je le disais tout à l'heure, maintenant aux prisonniers politiques avec vous, Bérangère Piret.
Laurent de Hausset, un jour dans l'histoire.
Allô Léopoldville, nous interrompons à présent notre émission qui sera reprise à 16h, je répète 16h GMT. À bientôt.
Voilà l'indicatif de Radio Léopoldville. Nous sommes avec Bérangère Piret pour 5 minutes encore. On va s'intéresser, je le disais, aux prisonniers politiques qui ont été détenus dans cette prison de Stanleyville, la prison des 100 000 briques. On les appelle les relégués politiques aussi, qui sont incarcérés pour troubles à la tranquillité publique. Qui sont-ils essentiellement, Bérangère Piret,
ces prisonniers ? Alors, à la prison de Stanleyville, on a essentiellement des Rotonga et des Kitawalistes. Donc ce sont en fait des membres de ce qu'on appelait des sectes, qui sont en fait des mouvements politico-religieux qui prônaient le retour de l'Afrique aux Africains et la venue de Dieu sur Terre pour libérer les Africains. Et donc au travers de ça, les colonisateurs ils voient clairement une menace à leur présence. Ils ont donc été enfermés. Initialement, ils ont été enfermés parmi les autres détenus. Ils ont alors été des véritables évangélisateurs parmi cette population de détenus. Les autorités coloniales se sont rendues compte des dégâts que ça causait. Et puis, par la suite, ils ont été vraiment enfermés dans un quartier particulier qui était même grillagé. Et puis, ils portaient des insignes distinctifs pour les séparer des autres détenus. Et ils ne pouvaient pas se mêler non plus aux autres.
Ils sont devenus de plus en plus populaires, au fond, en prison. Enfin, leurs idées sont devenues populaires. Ils avaient des disciples.
Ils
ont fait des disciples en
prison. Et on voit bien que ces questions aujourd'hui sécuritaires du radicalisme en prison, eh bien, c'était déjà le cas au Congo aussi.
Parmi les prisonniers célèbres, entre guillemets, de cette prison de Stanleyville, il y a Patrice Lumumba, donc héros de l'indépendance, premier ministre de la République démocratique du Congo qui sera assassiné en 1960. Il y a été détenu quelques temps, en fait, avant sa mort, je pense.
Oui, il y a été détenu après ce qu'on a qualifié d'émeutes qui se sont passées à Stanleyville en octobre 1959.
Alors, est-ce que ce travail, la rédaction de cet ouvrage, Bérangère Piret, a été aisé? Je veux dire, est-ce que c'est une matière qui est facilement consultable? Est-ce qu'il y a des tabous autour du sujet encore aujourd'hui?
Alors, des tabous, non, mais il y a des interdits. Au nom de la loi sur la protection de la vie privée, j'ai pas eu accès au dossier de ces détenus. Et puis, par rapport à tout ce qui était institution, en fait, ça a été plutôt une recherche aisée puisque la colonie belge a produit un nombre de documents complètement invraisemblables. Et donc, je suis partie de tous les rapports d'inspection de la prison pour petit à petit redonner vie à cette institution. Alors, j'ai eu la chance aussi de tomber sur un reportage photo incroyable fait par André Covin qui était parti au Congo pour faire un film qui devait être projeté à l'Expo 58. Le film n'a pas été projeté, mais il a fait toute une série de clichés de la prison.
Certains clichés se retrouvent dans votre ouvrage. Vous posez une question dans votre ouvrage, donc je vais vous la poser à mon tour. Cette question, c'est de savoir si le gouvernement et les agents coloniaux n'ont pas consciemment ou non limité les formations professionnelles ou plafonné le niveau de ces formations.
Alors je crois que c'est une question qui dépasse largement le cadre de la prison. C'est une question qu'on peut se poser pour tout enseignement au Congo. Mais oui, ce qui est sûr, c'est que dans le cas de la prison, elle a eu un véritable rôle de formation. Maintenant, est-ce que c'était les bonnes formations? On peut se poser la question parce que la prison formait des tisserands, des relieurs, et tous ces métiers en fait ne pouvaient pas être, toutes ces formations ne pouvaient pas être mises à profit une fois de retour au village. Donc il fallait nécessairement être dans une ville pour pouvoir les pratiquer. Or, au moment leur libération, eh bien, ils étaient expulsés de la ville.
Et au fond, on n'avait peut-être pas intérêt à ce que le taux de criminalité baisse.
Non, parce que comme on a eu l'occasion de l'évoquer, en fait, la prison a toute une série de rôles, et notamment celle de main d'œuvre, fournir une main d'œuvre gratuite.
Ça reste le symbole de la domination coloniale, cette prison de Stanleyville.
Oui, Et même post-coloniale, ouais. Puisque la prison, elle est toujours là aujourd'hui et elle sert toujours aujourd'hui.
Elle a été beaucoup dégradée quand même.
Elle a été dégradée, mais les détenus sont toujours enfermés dans cette prison.
Pour en savoir plus, donc, les 100 000 briques, la prison et les détenus de Stanleyville, c'est cet ouvrage de Bérangère Piret qui a été publié, qui est publié au Centre d'histoire judiciaire. Hein, c'est récent, en septembre dernier. Merci beaucoup, Bérangère Piret, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci.